L'audience est reprise. Je voudrais, avant que nous commencions notre audience, signaler à l'attention du public, de tous ceux qui sont là, la présence de M. le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui nous a fait l'honneur de visiter notre tribunal ce matin et de participer, ne serait-ce que quelques instants, à notre audience. Nous en sommes très honorés et nous aurons l'occasion de lui exprimer plus tard au cours de cérémonies officielles. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour nous dire ce que vous nous proposez ce matin.
Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce matin nous voudrions faire appel au témoin Madame Alison Deforge. Mais avec la permission du tribunal, nous voulons formuler une requête. Mon collègue Aïle Mariam fera la première partie qui portera sur l'histoire du Rwanda à partir de la période précoloniale jusqu'à 1990, en parlant par exemple de la structure du gouvernement, la situation sociale, etc. Puis je prendrai le relais à partir de 1990 jusqu'à la guerre, jusqu'à la période de la guerre, dont la présentation se fera en deux temps. Je vous remercie.
Monsieur le procureur, il n'y aura aucune difficulté à vous permettre de parler tous les deux. Le parquet est indivisible. Et puis pour une fois que vous parlez à deux, la défense le fait toujours. Bon, monsieur l'huissier, faites entrer le témoin, madame Alison Deforge. C'est un témoin qui n'est pas protégé, donc la presse pourra filmer et prendre des enregistrements. Bonjour madame. Alors, le parquet vous a fait comparaître comme témoin de l'accusation. Avant de vous faire prêter la déclaration solennelle prévue par nos règlements, je voudrais d'abord recueillir votre nom, prénom, profession et éventuellement adresse.
Je m'appelle Alison Deforge. Je suis historien de formation. Actuellement, je travaille comme consultante auprès de Human Rights Watch, une organisation internationale dont le siège est aux États-Unis d'Amérique.
États-Unis actuellement?
Oui, je vis aux États-Unis, effectivement.
Madame, conformément au règlement, vous allez vous lever, lever la main droite et lire la déclaration solennelle qui est devant vous.
Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Je vous remercie, madame.
Vous entendez vous exprimer en anglais ou en français?
En anglais, s'il vous plaît. Mais si vous avez des questions que vous me posez en français, je pourrai suivre directement.
Merci, madame. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Vous commencez l'interrogatoire du témoin.
Je vous remercie, monsieur le président. Madame, messieurs les juges, bonjour. Bonjour, docteur Deforge. Monsieur le président, permettez-moi de dire une introduction avant de passer à l'interrogatoire. Comme je l'ai dit dans ma déclaration d'ouverture au début de ce procès, le massacre de 1994 au Rwanda n'était pas l'éclatement spontané de la colère de la population à la suite de la mort du président. Il s'agissait de quelque chose de planifié méticuleusement et exécuté sans état d'âme. Ce n'est pas en une nuit que cela a été fait. La planification a pris un certain temps. Il sera donc nécessaire de parler de l'histoire du Rwanda pour essayer d'éclairer la culture malsaine qui s'est développée et qui a conduit au massacre. Monsieur le Président, à l'instar de toutes les tragédies en Afrique, celle du Rwanda trouve ses racines dans la période coloniale. Par conséquent, nous discuterons de l'héritage colonial au Rwanda qui a conduit bien sûr à la situation qui a donné lieu au massacre. Ensuite, nous mettrons en relief la situation politique au Rwanda. Puis, Monsieur le Président, nous parlerons du rôle du Front patriotique rwandais en tant que force combative en vue de prouver qu'au Rwanda, en 1994, il existait un conflit armé intérieur. Et vous, les juges, bien sûr, pourrez également noter ces faits. Nous examinerons ces questions dans le but de prouver qu'il y a eu violation de l'article 3 des conventions de Genève. Avec ces remarques liminaires, je voudrais passer à l'interrogatoire à proprement parler. Docteur Desforges, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre nom et votre titre? Je suis le docteur Alison Desforges, je suis historienne et activiste des droits de l'homme. Et vous êtes citoyenne de quel pays? Je suis citoyenne des États-Unis d'Amérique. Docteur Desforges, avez-vous une famille? Bien sûr, je suis marié, j'ai deux enfants. Et que font vos enfants? Ma fille est professeure à l'ECASI, Louisiana, et mon fils est un étudiant en histoire en ce qui concerne les langues modernes. Que fait votre époux? Mon mari est également historien spécialisé dans l'histoire de la Chine du XVIIe siècle. Quel est votre employeur actuel? Je suis actuellement employée comme consultante par Human Rights Watch Africa. Pourriez-vous nous dire rapidement quelles sont vos attributions? Je mène des enquêtes, je recueille des documents sur la situation des droits de l'homme, en particulier dans les régions du Rwanda et du Burundi. Les informations recueillies dans le cadre des enquêtes sur le terrain, servent à essayer de changer les politiques des gouvernements qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Ces informations permettent également d'informer la communauté internationale, les bailleurs de fonds, de manière à les amener à exercer une certaine pression en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme. Docteur Desforges, pourriez-vous nous parler de votre carrière universitaire? J'ai fait mes études à Harvard University où j'ai étudié l'histoire, puis j'ai fait une maîtrise en histoire africaine et enfin un doctorat en histoire africaine à l'université de Yale. Votre licence portait sur quoi? Sur l'histoire européenne avec une thèse portant sur le séparatisme dans l'est de la France. Et où avez-vous fait votre maîtrise? J'ai fait une maîtrise sur l'histoire africaine. Et en plus de l'histoire, j'ai étudié l'anthropologie, l'histoire de l'art. Avez-vous écrit une thèse dans le cadre de votre maîtrise? Non, au niveau de la maîtrise, on n'a pas besoin d'écrire une thèse. Quand avez-vous obtenu votre maîtrise? C'était en 1966. Avez-vous obtenu une mention quelconque au cours de vos études? Oui, j'ai eu mention très honorable en histoire européenne, puis j'ai préparé ma thèse de doctorat qui a reçu, qui a été reçue également avec mention très honorable en latin magna cum laude. Parlons maintenant de votre expérience professionnelle, docteur Desforges. Appartenez-vous à une organisation professionnelle? Oui, j'appartiens à l'Association des études africaines, qui est une organisation professionnelle aux États-Unis. Je travaille dans la Commission des droits de l'homme et je suis également membre d'un certain nombre d'organisations regroupant des universitaires africains. J'appartiens à l'Association des études africaines depuis 25 ans. J'ai oublié de vous demander sur quoi a porté votre thèse. Ma thèse a porté sur l'histoire du Rwanda sous le règne de Musenga, qui était un roi qui a régné du début de la colonisation coloniale jusqu'à la fin, jusqu'à 1931 à peu près. Docteur Devorge, avez-vous eu des publications sur le Rwanda ou tout autre sujet relatif au témoignage que vous allez faire? Oui, j'ai publié de nombreux travaux sur le Rwanda, aussi bien dans le domaine de l'histoire que dans le monde, dans le domaine des droits de l'homme. Oui, je ne peux pas vous en parler longuement. Mais généralement, mes publications se classent en trois groupes. Il y a d'une part les travaux de nature purement historique qui portent sur la période coloniale et précoloniale au Rwanda, en mettant un accent particulier sur l'organisation militaire appelée Ingabo au XIXe siècle. Puis dernièrement, j'ai mené également des travaux sur la situation au Rwanda, surtout depuis 1990. Ces publications ont été diffusées sans que vous ayez à payer quoi que ce soit? Oui, effectivement. Et qu'est-ce que cela signifie pour la qualité, en ce qui concerne la qualité de vos travaux? Généralement, mes travaux ont été très appréciés par mes collègues et par les universitaires. Je suppose que vous avez également publié de nombreux articles. Oui, de très nombreux articles. J'écris énormément. Avez-vous également publié des documents dans le cadre des conférences? Oui, je suis intervenu dans le cadre de nombreuses conférences au niveau universitaire en mettant l'accent sur la situation au Rwanda. Dernièrement, j'ai été invité à ouvrir la session plénière de l'Association américaine des historiens début janvier 1996, ce qui était un honneur tout à fait particulier, surtout quand on sait que je suis spécialisé dans l'histoire africaine, étant donné qu'en Amérique, on a plutôt tendance à mettre l'accent sur l'histoire américaine. Je voudrais, Monsieur le Président, rappeler en toute humilité que dans le dossier qui vous a été remis, vous avez une liste des publications, articles et ouvrages de Dr. Alison Desforges. Nous vous avons inclus ce document dans le dossier à des fins d'information. Docteur Alison Desforges, passons maintenant à votre expérience en matière d'enseignement. Où avez-vous enseigné et qu'est-ce que vous avez enseigné? J'ai enseigné l'histoire africaine en général, c'est-à-dire l'histoire de l'ensemble du continent africain avec un accent particulier sur la région des Grands Lacs. J'ai enseigné à l'université de Beijing en Chine, au Midbridge College, et ce, dans le cadre de l'Université de l'État de New York.
Je voudrais quelques éclaircissements sur ce point.
Vous avez amené cet expert ici comme expert témoin. Peut-être que vous auriez dû nous donner son curriculum vitae. Oui, Madame le juge, nous allons présenter ce curriculum vitae comme pièce à conviction. Et nous avons mis ce curriculum vitae dans les dossiers que nous vous avons remis.
Monsieur le juge Aspigrin.
Je voudrais vous poser une question similaire. Est-ce que vous auriez d'autres documents concernant tout ce que le docteur Desforges aura à nous dire ici au tribunal? Et si ces documents existent, est-ce que ces documents peuvent être remis au juge? Monsieur le juge, nous allons le faire tout le long de ce témoignage. Il y a un certain nombre de documents que nous allons remettre au tribunal.
Monsieur le procureur, vous avez la parole pour suivre votre interrogatoire.
Merci, Monsieur le Président. Docteur Desforges, est-ce que vous avez reçu une récompense pour vos ouvrages et pour votre enseignement? Oui, j'ai reçu des récompenses plusieurs fois. Je dois dire que généralement, je suis embarrassé quand on me demande de parler de ce genre de choses, car je pense que je vous ai donné mon curriculum vitae et vous pouvez voir à partir de ce curriculum vitae tout ce que j'ai pu faire et toutes les récompenses que j'ai reçues. Docteur Desforge, est-ce que vous avez jamais été témoin, comme expert témoin? Je l'ai fait une fois dans une procédure judiciaire concernant Léon Bogosora au Canada, en Montréal, en 1985, par rapport à un discours qu'il a prononcé au Rwanda en novembre 1992. Docteur Desforges, est-ce qu'on vous paye pour le témoignage que vous venez faire ici aujourd'hui? Généralement, on donne de l'argent aux témoins experts. Est-ce que vous serez payé? En principe, je ne prends jamais de l'argent quand je comparais comme témoin expert. Parlons maintenant des consultations que vous avez faites. Est-ce que vous pourriez nous en parler? En plus du travail que je fais pour Human Rights Watch, je suis consultant pour le gouvernement des États-Unis, 91 et 92, dans le cadre de la création, de la mise en place d'un programme d'assistance pour le Rwanda en vue de la démocratisation de ce pays. Est-ce que vous êtes payé pour ce travail de consultation? Je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais recevoir quelque chose. Docteur Desforges, vous êtes activiste en ce qui concerne les droits de l'homme. Je dois dire qu'en ce moment, je ne travaille plus comme académicien au plan historique, mais je suis plutôt activiste dans le cadre des droits de l'homme. Donc, on pourrait penser que les violateurs de droits de l'homme doivent être punis, selon vous, oui. Vous aimeriez également que ces violateurs des droits de l'homme bénéficient d'un jugement équitable et juste. Oui, quand je pense à mon travail, je me dis qu'il faudrait que nous puissions arriver à protéger les êtres humains, à faire valoir leurs droits de l'homme. Également que l'accusé soit présumé innocent avant qu'il ne soit reconnu coupable. Est-ce que vous appartenez à un groupe politique? Est-ce que vous pensez que quelqu'un devrait être harcelé du fait de son origine ethnique ou alors du fait de son appartenance politique? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous avez fait l'évaluation de la situation des droits de l'homme au Rwanda au cours du régime Habyarimana? J'ai mené un certain nombre de missions sur le terrain au Rwanda durant le gouvernement de Habyarimana. La première mission, c'était en novembre 1991. J'ai présenté des rapports au mois de février 1992 en rapport avec cette mission que j'avais effectuée. Et après cela, j'ai fait présenté un certain nombre de rapports pour Human Rights Watch. Et j'ai également co-présidé la commission internationale sur le Rwanda en rapport. Avec cela, nous avons présenté un rapport exhaustif sur la situation des droits de l'homme et les violations des droits de l'homme en ce moment-là au Rwanda. En général, est-ce que ces rapports faisaient ressortir des violations des droits de l'homme dans le gouvernement Habyarimana? Effectivement, nous avons condamné de graves violations des droits de l'homme dans divers domaines. Par exemple, la violation des droits des individus dans le cadre de leur affiliation politique, également violation des droits des Tutsis en tant que Tutsis, notamment un certain nombre de massacres de Tutsis. Merci. Est-ce que vous avez présenté des rapports sur les droits de l'homme concernant le gouvernement actuel au Rwanda? Je l'ai fait, oui. Avant la fin du régime Habyarimana, j'avais fait des rapports dans lesquels je parlais du FPR, et qui était un mouvement armé à l'époque. J'en ai parlé également dans mes publications. J'ai critiqué le FPR pour des violations apparentes qui appelaient des enquêtes. Depuis l'avènement du gouvernement actuel, j'ai présenté des rapports dans lesquels j'ai fait état d'un certain nombre de situations d'abus de l'armée rwandaise, ce qui ressortait de mon premier rapport après l'avènement de ce gouvernement en septembre 1994, où j'ai fait ressortir le fait que il y avait eu des massacres qui auraient été menés par le FPR dans la commune de Kingi au mois de juin 1994. Par la suite, j'ai parlé de la situation des droits de l'homme au Rwanda. Généralement, je suis très critique. Est-ce que vous avez écrit un certain nombre de documents en ce qui concerne les droits de l'homme dans d'autres pays? Oui, je l'ai fait pour le Burundi, où j'étais président de la commission internationale qui menait des enquêtes sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye et des massacres qui ont suivi cet assassinat. Depuis ce temps-là, j'ai, sur une base régulière, fait des rapports sur la situation prévalant au Burundi. Parlons maintenant de votre amour pour le Rwanda. Depuis quand est-ce que cela a commencé? Je suis arrivé en Afrique pour la première fois en 1963. J'étais étudiant à l'université. Je suis venu comme volontaire, enseignant, et j'ai été affecté dans un camp à l'ouest de la Tanzanie où se trouvaient des réfugiés rwandais. C'était là mon premier contact avec le Rwanda. Est-ce que c'était des réfugiés Tutsis? Dans l'ensemble, oui, c'était des Tutsis. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces réfugiés dans ces camps? J'ai dispensé des enseignements et j'ai également soigné de manière rudimentaire les personnes. Et ceci a duré combien de temps? Environ 4 mois. C'était entre les semestres que je passais à l'université. Est-ce que vous avez jamais résidé au Rwanda, docteur Desforges? De la fin de 1967 jusqu'à la fin de 1968, j'habitais le Rwanda. Je faisais des recherches pour ma thèse de doctorat. En ce moment, j'étais affilié à l'association de recherche au Rwanda. Ensuite, je suis revenu pour un an pour effectuer des recherches au plan historique en 1981. Depuis ce temps-là, je me suis rendu régulièrement au Rwanda pour travailler sur le terrain. J'y suis allé 17 fois. Et généralement, ces missions duraient combien de temps? En général, 2 à 3 semaines, dit le témoin. Docteur Desforges, est-ce que vous parlez le Kinyarwanda? J'ai une connaissance passive du Kinyarwanda. Parler le Kinyarwanda, oui, je peux faire mon marché. Je peux acheter mes bananes au marché, mais je ne pourrais pas parler de philosophie en Kinyarwanda. Vous parlez français? Oui, je parle le français. Donc, avec les Rwandais, vous parliez généralement le français. Ça dépendait du moment où vous parliez. Généralement, j'ai beaucoup perdu de mon français, étant donné que je ne le parle pas beaucoup. Au moment où je menais mes recherches, j'ai pu mener des enquêtes personnelles. Mais depuis ce temps, je n'ai pas beaucoup utilisé le français, alors généralement, j'utilise un interprète. Est-ce que vous pensez que vous êtes neutre en ce qui concerne les Tutsis, les Hutus et les Twa? Généralement, oui, je suis neutre en ce qui concerne toute personne de tout groupe que ce soit, de quelque groupe que ce soit. Je pense que vous connaissez également très bien la culture rwandaise. Oui, c'est une culture que j'ai beaucoup admirée et je l'admire depuis longtemps. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie au Rwanda et je suis toujours tenté de quitter la capitale Kigali pour aller dans les provinces et pour parler avec l'homme de la rue au Rwanda. Docteur Desforges, est-ce que les preuves, ce que vous allez nous dire ici, sont basées sur votre expérience personnelle ou alors sur vos connaissances académiques? Je suis un travailleur dans le domaine des droits de l'homme. Alors, je tire mes informations de diverses sources. Cela signifie que je parle généralement aux gens dans la limite des ressources disponibles. Je consulte également les autres experts. J'utilise le travail qu'ils ont effectué. J'utilise les documents publiés quand ces documents existent. Cela signifie également travailler sur le terrain dans la mesure du possible afin que les évaluations que je fais et les résultats, les conclusions soient basées sur des faits précis. Monsieur le Président, je vous donne donc la pièce à conviction 66, qui est donc le biodata et également la liste des publications faites par le docteur Desforges. Pièce à conviction 66. Monsieur le Président, je suis désolé, nous n'avons pas eu le temps de traduire ce document en français, mais nous le ferons à temps opportun.
Nous sommes habitués à cela, hélas.
Monsieur le Président, nous allons essayer d'améliorer la situation. Docteur Desforges, revenons maintenant au témoignage à proprement dit. Est-ce que brièvement vous pourriez nous décrire le Rwanda au niveau économique, la population, la superficie? Le Rwanda, c'est un petit pays caractérisé par sa situation au cœur de l'Afrique, ce qui signifie que, à la différence d'autres régions de l'Afrique qui ont souffert de l'esclavage et du colonialisme, le Rwanda était plus ou moins protégé par tous ces courants du fait de sa situation géographique. La location géographique du Rwanda est également importante car le Rwanda se trouve au carrefour d'un certain nombre de populations diverses caractérisées par le fait qu'il s'agit d'un tournant, d'un carrefour où se rencontrent des personnes d'origine diverse. C'est une région très pluvieuse où la pluviométrie est très élevée. Et résultat, la population s'est multipliée rapidement avant les événements de 1994. C'était le pays le plus densément peuplé de l'Afrique. C'est un pays relativement petit, 10 000 km². Cela signifie que, compte tenu de l'état des routes qui sont très bonnes, vous pouvez conduire, faire le tour du Rwanda rapidement et même en un jour. C'est un pays de collines, surtout vers l'ouest, le nord-ouest, où se trouvent les plus grandes collines et les volcans également, qui baissent graduellement quand vous allez vers l'est. Et à la frontière de l'est, nous arrivons vers un paysage un peu plus plat. La majorité de la population vit de l'agriculture. Environ 90% de la population aujourd'hui vit de l'agriculture et la plupart de ces personnes font de la culture vivrière et non pas de la culture de rapport. Les produits d'exportation principaux, c'est le café et le thé. Et la culture vivrière est également très importante. Le Rwanda a toujours été l'un des pays les plus pauvres du monde, en partie parce que le ratio population-terre est très faible, car chaque paysan n'a pas de terre à cultiver. Et le PNB au Rwanda est le plus faible du monde. C'est un pays au climat généralement tempéré, ce qui a fait en sorte que les étrangers sont heureux d'y travailler. Ceci a généralement influencé l'assistance que l'on a apportée au Rwanda. Beaucoup de projets d'assistance ont été mis en place au Rwanda. Par rapport à l'Afrique tropicale, où le climat est plus difficile, où il y a beaucoup plus de maladies et que les étrangers ne peuvent pas supporter. Je vous remercie, docteur. Quand est-ce que le Rwanda est devenu un État en tant que tel? Les historiens discutent encore de cette question et continuent à en débattre. Et le débat n'est pas encore clos. En général, nous disons, nous pensons, que le Rwanda est devenu un État en tant que tel vers le XVIe siècle et était une puissance politique avant l'ère coloniale. La structure politique du Rwanda était très complexe. extrêmement sophistiquée. Les étrangers qui essaieraient de comprendre ce système et la façon dont fonctionnait ce système ont connu beaucoup de difficultés, car c'est un système qui ne pouvait pas être gelé dans le temps si on voulait le comprendre. Et généralement, les étrangers qui arrivaient au Rwanda ont toujours été étonnés par l'étendue et la complexité des institutions politiques. Mais en résumé, je dirais que le monarque, le Mwami, le dirigeant, avait des subordonnés de différentes natures, de différentes catégories. On avait des chefs militaires, les abattoirs, qui contrôlaient des groupes de population et également des parties du territoire. C'était un déterminant important, c'était que généralement, on avait des groupes de la population qui commandaient dans chaque région. Au 19e siècle, nous avons connu un changement. Le commandement est devenu un commandement territorial. Il y avait également des officiels qui avaient la responsabilité de s'occuper du bétail du roi. C'était des pasteurs. Il y avait également des personnes qui devaient s'occuper des pâturages et un autre groupe qui s'occupait des terres arables. La multiplicité donc de ces personnes au niveau d'un seul territoire permettait donc un échange et ce qui créait également des rivalités politiques entre les différentes personnes, entre les différents groupes. C'est-à-dire que le monarque pouvait utiliser une personne contre l'autre. Et dans la société, les personnes pouvaient également jouer de l'appui qu'ils avaient du monarque pour opprimer les autres personnes. C'était un système complexe, sophistiqué. Les ordres étaient passés de manière indirecte. Il y avait beaucoup d'ambiguïté dans la culture politique rwandaise. Et les populations qui ne savaient pas jouer ce jeu, au début donc du XXe siècle, je veux parler des Européens, qui n'ont pas compris la complexité du système politique rwandais, ont connu beaucoup d'illusions et n'ont pas vu exactement quelle était la vérité. Le système comprenait également des institutions très importantes connues sous le nom de Ubuhaki, qui étaient quelque chose que l'on pourrait appeler des institutions amicales, une protection institutionnalisée, où une personne très importante dans la société protège des personnes moins importantes et ces personnes en retour lui rendent des services. Les étrangers ont assimilé cela à un système féodal, au système féodal qui existait en Europe. Mais ce n'a pas toujours la même chose. Docteur Allison, vous avez parlé de groupes. Est-ce qu'on peut parler de groupes économiques, de groupes ethniques ou de groupes sociaux? Comment est-ce que l'on pourrait catégoriser ces groupes? Comme je l'ai déjà dit, le Rwanda se trouve au cœur de l'Afrique. Résultat, le Rwanda a connu donc un processus de migration, des migrateurs venant de diverses régions au cours de millénaires. Les historiens ont passé beaucoup de temps. Quand j'étais étudiant, c'est ce que j'ai appris, pour essayer de comprendre quand est-ce que les divers groupes de personnes étaient arrivés. Les historiens, quand je faisais donc mes études, pensaient qu'il y avait des catégories fixes, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Nous savons maintenant que ce n'est pas vrai, ce n'est pas une représentation précise de la réalité avant le XXe siècle. Ainsi donc, il vaudrait mieux penser qu'il y avait des petits groupes de personnes qui ne s'identifiaient pas en tant que Hutu, Tutsi ou Twa, mais qui s'identifiaient soit en termes de leur appartenance à un groupe appartenant à la royauté ou alors un groupe militaire. Il y a 18 groupes claniques au Rwanda. Tous ces groupes donc comprenaient les Hutus, les Tutsis et les Twa. C'était donc le bloc d'identification unique jusqu'au XXe siècle. Le mot Ukoko en Kinyarwanda signifie à la fois ce genre de groupe clanique et également c'est la dénomination du groupement que nous appelons aujourd'hui des groupes ethniques. C'est le même terme donc qui s'applique aux deux. Il s'agit d'un terme qui signifie espèce, regroupement, et ceci s'applique à ce que nous appellerons maintenant groupe clanique ou alors groupe ethnique. Dans le temps, sous l'époque coloniale, l'identification des personnes a changé de ces clans et petit à petit, nous sommes arrivés à une division tripartite entre Hutu, Tutsi et Twa. Quand vous dites que ce que nous appelons aujourd'hui groupe ethnique, à quoi faites-vous référence? Les académiciens parlent de groupes ethniques, c'est-à-dire des personnes qui s'identifient en tant qu'unité. Et pour signifier cette identification à travers leur langue, leur culture, c'est-à-dire les personnes qui parlent la même langue, qui croient au même Dieu, qui ont un passé historique commun, pourrait donc être qualifié comme groupe ethnique. C'est un terme dont l'évolution a changé dans le temps. Quand vous parlez donc du Rwanda, de quel groupe parlez-vous? À quoi pensez-vous? Quand je parle du Rwanda, je pense Hutu, Tutsi et Twa. Deuxième question, est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit là d'un groupe ethnique en tant que tel? Car si j'ai bien compris, les trois ont la même langue, la même religion, et vous-même, vous avez dit que c'est ce qui rentre dans le cadre de clan. C'est exact. Il s'agit là d'un point très difficile à éclaircir et très important. Le critère primaire d'appartenance à un groupe ethnique, c'est le sens d'appartenance à ce groupe ethnique. La notion d'appartenance à ce groupe ethnique, c'est une notion qui peut évoluer dans le temps. En d'autres termes, la définition du groupe où l'on appartient peut changer dans le temps. Mais si vous prenez un moment fixe, un moment donné dans le temps, et que vous vous posez la question de savoir comment est-ce que cette population se répartit, alors vous essayez de voir quels sont les groupes ethniques qui existent dans l'esprit des participants en ce moment précis. Les Rwandais en ce moment, et pour la dernière génération tout au moins, se sont définis en termes de ces trois groupes ethniques. Par ailleurs, la réalité doit s'entendre dans la situation précise que nous vivons et les conditions dans lesquelles vivent les gens. Au Rwanda, les réalités ont été remise en question par la colonisation qui a imposé une catégorisation qui était plus fixe et qui n'était pas toujours appropriée à la situation. Mais les Belges l'ont imposé, ont imposé donc ce classement au début des années 30 quand ils ont demandé à la population de s'enregistrer conformément au groupe ethnique. La catégorisation qui a été imposée en ce moment-là, c'est ce que les personnes de la génération actuelle ont connu jusqu'à aujourd'hui. On leur a appris à penser donc en termes de ces catégories, même si dans leur vie quotidienne ne devaient pas toujours tenir compte de cela. Mais le système colonial a donc créé une situation dans laquelle les pratiques européennes ont été transposées à une situation africaine. Par exemple, les inscriptions, les enregistrements. Et on imposait également au Rwanda l'obligation d'avoir une carte d'identité nationale. Et sur cette carte d'identité était inscrite cette catégorisation. Cette pratique s'est poursuivie après l'indépendance par la Première République et la Deuxième République au Rwanda. Si bien que ces divisions en trois groupes ethniques est devenue une réalité absolue. Si nous mettons de côté pour le moment ces cartes d'identité, est-ce qu'il serait vrai de dire que certains Rwandais, même aujourd'hui, ne savent pas exactement à quel groupe ils appartiennent? Et même que certains individus n'aimeraient pas répondre à la question de savoir est-ce que vous êtes Hutu, Tutsi ou Twa. Ils seraient plutôt réticents à y répondre. Eux, ils savent tout simplement qu'ils sont Rwandais. Est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que nous poussons la logique un peu trop loin? Il est difficile de répondre à cette question pour plusieurs raisons. Il y a eu des mariages interethniques. Il y a eu toujours des mariages interethniques, des mariages entre personnes de différents groupes. Au plan juridique, la personne est du même groupe ethnique que son père. Mais il reste des liens émotionnels vis-à-vis le groupe ethnique de la mère, ce qui crée donc une certaine ambiguïté vis-à-vis les personnes qui ont donc ces parents mixtes. Ou alors, dans le cas d'un mariage mixte, la personne qui est mariée à la personne d'un autre groupe se trouve donc maintenant avec des parents d'un groupe ethnique différent du sien, ce qui crée une certaine complication dans son esprit en ce qui concerne son identification ethnique. Si bien que, oui, on peut rencontrer des individus qui sont un peu confus, qui sont un peu perdus, non pas au plan juridique, car au plan juridique, leur statut est clair, mais sur le plan émotionnel, ils ne savent pas exactement à quel groupe ils appartiennent. Par ailleurs, cette question revêt une signification politique tellement importante que les individus seraient plutôt réticents à répondre à cette question. Je vous remercie.
Je vous remercie. Je voudrais revenir à la période coloniale. Pendant cette période, nous ne pouvions pas parler de groupe ethnique, pouvions-nous? Dans le sens, dans l'entendement d'aujourd'hui, les groupes ethniques étaient en formation pendant le XXe siècle. La science sociale n'est pas une science exacte. Il serait donc difficile de dire à partir de quel moment ce processus a commencé, même si nous savons qu'au début des années 1930, les cartes nationales d'identité ont été introduites. Il est vrai que l'élite, ou ce qui se considérait comme l'élite, ce serait très simple. En tout cas, nulle part dans le monde, il n'a existé une élite qui ne se soit considérée comme supérieure aux autres. Mais la démarcation claire d'un groupe en tant que Tutsi, avec une conscience politique de cette appartenance au groupe Tutsi, avec en tant que groupe distinct du groupe Hutu, est certainement né au XXe siècle. Y a-t-il eu des différences linguistiques ou des différences politiques entre les divers groupes qui existaient à l'époque? À quelle époque? Pendant la période précoloniale. Pendant la période précoloniale, il y avait des personnes qui avaient des styles de vie différents. Il y avait les pasteurs qui méprisaient la culture, le travail agricole, et il y avait les agriculteurs qui vivaient surtout du fruit de leur agriculture. Mais le point important qu'il importe de souligner, c'est que même s'il existait deux styles de vie différents avant la période coloniale et qui est de même qu'après la période coloniale, le transfert d'un type de vie à un second type de vie ne saurait pas justifier la situation actuelle, car avant que les Européens arrivent, il y avait un grand nombre d'agriculteurs. Il y avait également un grand nombre de Hutus avant que la distinction ethnique ne soit introduite par les Occidentaux. Mais cela ne signifie pas que les éleveurs de l'époque, ou plutôt les agriculteurs, se considéraient comme des Hutus distincts des autres groupes. Il serait étonnant de penser que ces personnes se considéraient comme distincts de ceux qui venaient, par exemple, de l'Est, à travers le lac, donc provenant du Zaïre. D'autres personnes sont venues du Nord, d'autres encore sont venues de l'Ouest. Les différences étaient certes assez claires au sein de la population que nous appellerions aujourd'hui Hutu, de même qu'il y avait une certaine différence au sein du groupe élargi que nous appelons Tutsi aujourd'hui. Mais il y avait des Tutsis qui sont arrivés à aucun moment, n'est-ce pas, il y a eu des Tutsis qui sont arrivés tous en groupe unique au Rwanda à un moment donné. Ceci est également vrai des Hutus. En 1910, déjà, il y a eu des Hutus, il y a eu également des Tutsis qui sont arrivés au Rwanda. Je pars de 1910 parce que c'est à partir de cette date-là qu'on a des données historiques. Donc, il y avait des groupes de personnes qui étaient agriculteurs, d'autres personnes qui étaient des pasteurs, mais ils ne se considéraient pas comme éléments d'un groupe ethnique unique. C'est uniquement après l'instauration du pouvoir colonial que cette distinction, cette dichotomie ethnique a été introduite. Les données faisant la distinction entre les Hutus et les Tutsis remontent en fait à 1917, mais le mot Hutu, en fait, signifiait le serviteur de quelqu'un, de même que le mot Hutu avait tendance à être utilisé pour désigner un chef. Mais ces deux termes, à ce moment-là, n'étaient pas utilisés pour désigner une communauté quelconque. Je vous remercie, docteur. Après donc cette période précoloniale, parlons maintenant de la période coloniale. Pouvez-vous nous parler de la colonisation du Rwanda, à la fois par les Belges et par... Pardon, Monsieur le Président.
Monsieur le Procureur, je voulais suivre le point avant que vous passiez à votre question. Un éclaircissement. Le témoin a fait remonter l'État rwandais au XVIe siècle, si on peut l'appeler État. Je vous pose la question suivante. Nous avons reçu un certain nombre de témoins qui ont dit que à chaque fois que des Hutus pourchassaient les Tutsis, certains n'ont pas hésité à dire qu'ils retournent en Abyssinie. Alors, nous avons une dichotomie entre agriculteurs et pasteurs. Est-ce que cette dichotomie ne recouvre pas l'origine de ces populations Tutsis ou Hutus? Autrement dit, est-ce que le Tutsi ne viendrait pas de l'Abyssinie, Éthiopie, où il y a beaucoup plus de pasteurs certainement que d'agriculteurs? Est-ce que les Hutus ne seraient pas originaires plutôt d'origine locale, population bantou ou autre? Je voudrais avoir votre point de vue d'historien parce que c'est un problème qui s'est posé souvent ici, retourner en Abyssinie.
Il est extrêmement important, mais également difficile, de remonter le temps et faire une interprétation des origines des deux groupes. L'hypothèse selon laquelle les Tutsis viendraient d'Abyssinie remonte aux premières années du XXe siècle. L'histoire orale que j'ai recueillie ne fait pas état de manière claire de l'origine de ces personnes appelées aujourd'hui, considérées aujourd'hui comme des Tutsis. Il existe des traces historiques faisant état de migrations provenant généralement du nord. Mais il y a un mouvement migratoire provenant du nord qui a fait le tour du Rwanda, s'est rendu en Tanzanie pendant une brève période avant de retourner vers le Rwanda. Il est donc très difficile de donner une réponse claire à cette question. Il n'est pas impossible que les ancêtres de ce que nous appelons aujourd'hui les Tutsis proviennent de l'Europe, proviennent plutôt de l'Afrique de l'Est, à travers la vallée du Nil. Cela est très possible que les personnes venant du nord-est soient arrivées avant ceux qui sont descendus par la vallée du Nil. Et l'assimilation s'est faite sur place pour donner lieu au groupe connu aujourd'hui comme le groupe Tutsi. Bien sûr, ceux qui étaient là, ce qu'ils avaient en commun est justement leur activité pastorale. Il y a eu, bien sûr, des échanges culturels que l'on trouve au nord-est de l'Afrique, au sein des populations pastorales en Afrique de l'Est, et ce sont les mêmes habitudes que nous retrouvons au Rwanda et au Burundi. Les Ifivugo, qui apparemment est une tradition que l'on retrouve en Éthiopie, qui a une culture essentiellement pastorale. Cet élément pourrait être utilisé pour remonter à l'origine des Tutsis. L'on a émis, par exemple, l'hypothèse de recherche biologique à travers, par exemple, l'examen des groupes sanguins, afin de définir avec précision l'origine de ces populations, mais pour l'instant, ce travail de recherche n'a pas été effectué. Ce que nous appelons aujourd'hui les Hutus et ce que nous appelons aujourd'hui les Tutsis viennent tous de l'extérieur du Rwanda, mais ils se sont la formation en groupe Hutu et Tutsi s'est effectuée sur place en territoire aujourd'hui connu comme le Rwanda. Je vous remercie, Monsieur le Président. Revenons à la période coloniale. Comment le Rwanda a-t-il été colonisé par à la fois les Allemands et les Belges? Pourriez-vous peut-être nous l'expliquer séparément? Les premiers colons étaient des Allemands qui se sont installés en 1897 sous forme de protectorat. Mais c'est en 1907 en fait qu'ils sont devenus une colonie. Puis après la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont perdu le Rwanda au profit des Belges. Donc, la période allemande a été très brève. Ils ont eu, je crois, 7 administrateurs civils sur l'ensemble du royaume rwandais. Donc, clairement, l'Allemagne ne pouvait diriger le Rwanda que par l'intermédiaire de la hiérarchie traditionnelle et donc locale. Les Belges, eux, ont instauré un système colonial beaucoup plus dense en utilisant, bien sûr, la hiérarchie locale, la structure politique locale. Mais en introduisant des modifications, comme je l'ai dit, le système qui existait avant l'arrivée des colons européens était extrêmement complexe. Il y a eu une organisation plus rigoureuse et plus classique, n'est-ce pas, du système d'administration belge. Donc c'était un système simplifié, un système réorganisé. Mais au fond, les Belges pensaient qu'ils ne changeaient rien de ce qui existait de manière traditionnelle. Ils essayaient simplement d'introduire de légères modifications. Mais en fait, fondamentalement, ils ont modifié le système social et culturel au profit de l'élite qui régnait à l'époque.
Donc, le système a donné davantage de pouvoir à l'élite par rapport à ce qui existait auparavant. Il y avait bien sûr la force militaire et la force économique du colon européen, ce qui signifie que l'élite avait sur la population une emprise beaucoup plus forte qu'auparavant. En plus, cette élite a été modifiée, ce qui signifie que seules les personnes qui se présentaient et qui étaient considérées comme les Européens, comme les Tutsis, pas les Européens, comme les Tutsis, ont été constituées cette élite. Et les Hutus, dans le système traditionnel, jouissaient d'une certaine puissance. J'ai parlé des abattoirs, c'est-à-dire les chefs militaires. À la fin, par exemple, du 19e siècle, Ruwenge, qui était un grand chef militaire et qui a élargi le territoire rwandais, reposait son pouvoir sur 7 abattoirs qui étaient d'origine diverse. Il les utilisait contre ce qu'on appelait à l'époque les abattoirs tutsis, dans l'application du fameux principe du diviser pour régner. Donc, le Hutu servait le monarque et jouissait d'une certaine autonomie. Par exemple, dans le nord-ouest, la zone de Rwenguéri, la Bakara, la Barachi plutôt, dirigée par Rukara et son père Bichere, était extrêmement important et le roi traitait avec eux de manière extrêmement polie. Il y avait également de petits états comme l'état de Bushiro qui était la région d'où provenait le président Habyarimana. Bushiro était autonome jusqu'au milieu des années 1920. Mais les Européens, en essayant de rationaliser tout cela, ont éliminé un certain nombre de structures et ont imposé un système d'administration centrale partout. En même temps, ils ont réduit l'élite au groupe Tutsi et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a fallu introduire le système d'inscription des populations de manière à conférer le pouvoir à un seul groupe ethnique, en l'occurrence les Tutsi. Il s'agissait, en fait, il aurait fallu bien sûr respecter la généalogie des gens, mais seulement cela était extrêmement difficile. Or, il se trouve que dans les services, par exemple, d'enseignement, etc., le privilège était donné aux Tutsis. Donc. Et pour cela, pour définir, distinguer donc les Tutsis des Hutus, il fallait les obliger à s'inscrire. On demandait, est-ce que telle personne est Tutsi? Oui, alors dans ces conditions, on peut l'introduire dans le circuit du pouvoir. Il y avait également les femmes qui jouissaient d'un pouvoir très important. Et on les a poussées, car traditionnellement, la femme n'était pas censée exercer un quelconque pouvoir. Et c'est là que l'impact de l'administration coloniale s'est fait vraiment ressenti. Je ne pense pas que c'était une division, une politique délibérée de diviser pour régner. Il s'agissait en fait de la mise en œuvre d'un concept purement européen du racisme. Ils ont regardé la population, ils ont vu que certaines personnes avaient des traits qui ressemblaient à des traits européens et ils en ont conclu qu'ils étaient mieux habilités à exercer le pouvoir et ils ont mis en place un système dans ce sens. Mais les Tutsis n'étaient pas... Le système social et politique était extrêmement sophistiqué. Ils ont donc compris l'intention de colons européens et ils ont exploité cette situation pour renforcer leur pouvoir politique.
Nous allons devoir suspendre l'audience, mais malheureusement nous ne pourrons la reprendre que demain, pour des raisons évidentes. Nous recevons le président de l'Assemblée générale, nous avons un certain nombre de cérémonies cet après-midi avec lui. Nous sommes désolés, le témoignage est tellement intéressant. Nous aurions souhaité le continuer cet après-midi, mais nous le ferons demain. Et toute la journée sera consacrée au témoignage, et si vous voulez, même après. Mais vous comprendrez que ce jour, nous soyons un peu pris. Alors je demande votre compréhension.
Thank you.
Demande la compréhension de la défense et de l'accusé. Nous avons un certain nombre d'obligations cet après-midi avec la présence du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit le président de l'Assemblée générale. Donc nous présentons nos excuses à toutes les parties et nous allons reprendre l'audience demain matin à 9h30. La suspendue est reprise demain à 9h30.